Il y a une citation que j'aime bien qui dit « On aura atteint l'égalité professionnelle quand il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents à des postes à responsabilité.
» On sait aussi que dans les métiers qui vont disparaître, la plupart des métiers seront exercés par une femme.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions d'innovation par IBM. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet crucial, mais trop souvent sous-estimé, la place de la diversité et de l'inclusion dans le monde de la tech et de l'intelligence artificielle. Comment ces secteurs, moteurs d'innovation, reflètent-ils la diversité de notre société ? Quelles actions concrètes sont menées pour promouvoir une représentation plus équitable ? Rejoignez-nous pour une discussion éclairée avec nos invités, Elodie De Nascimento et Hélène Dex Van Ruys, deux femmes à la pointe de ce combat pour l'équité. Alors, Elodie, pouvez-vous nous éclairer sur votre rôle chez IBM et comment vous vous engagez personnellement en faveur de la diversité et de l'inclusion ?
Bonjour, alors je suis Elodie De Nascimento, consultante en transformation digitale chez IBM depuis 5 ans et spécialisée sur les sujets d'expérience client et d'accompagnement au changement dans les organisations. Me concernant, c'est pas mon poste directement qui est lié au sujet de diversité et d'inclusion. Dès le début de ma carrière, ça a été très important pour moi d'être alignée avec ces valeurs-là et aujourd'hui, je suis l'heureuse et très fière présidente d'un réseau d'entreprises chez IBM qui promeut les valeurs de diversité et d'inclusion.
À votre tour, Hélène, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour Frédéric, je suis Hélène Dex Van Ruys. J'ai deux casquettes. Je suis directrice RSE, diversité et inclusion dans une entreprise de la tech. Et parallèlement, je suis copilote du think tank Les Femmes et l'IA au laboratoire de l'égalité. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas le Laboratoire de l'égalité, c'est une association qui a été créée il y a plus de 13 ans et qui promeut l'égalité femmes-hommes, l'égalité professionnelle. Et à ce titre, on est particulièrement actif et active dans le groupe de l'IA.
Elodie, quelles initiatives le réseau RISE que vous présidez a-t-il lancé pour promouvoir activement la diversité et l'inclusion au sein d'IBM ?
Alors, nous sommes un réseau d'une vingtaine de recrues qui, notamment, pour ne citer que quelques exemples, organisent des événements de table ronde, débats autour des sujets de diversité et d'inclusion comme la question des quotas en entreprise, qui peut mener des actions de sensibilisation comme cela a déjà été le cas sur le harcèlement en entreprise, par exemple.
Hélène, plus largement, que mettez-vous en œuvre avec le Laboratoire de l'égalité pour améliorer la situation ?
Il y a tout d'abord la collection Égal à Égal et le livre qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle de Aude Bernheim et Flora Vincent qui a été préfacé par Cédric Villani. Je voudrais vous parler également du pacte du Laboratoire d'égalité pour une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes qui est sorti en 2019. Actuellement, nous faisons suite à notre mois de l'IA égalitaire qui consistait à avoir des webinars faisant intervenir les 5 parties prenantes, associations, entreprises, médias, recherche, écoles. Nous avons récolté énormément de data et nous n'avons pas voulu en rester là. Et donc, nous avons décidé de cruncher cette data, d'aller plus loin dans les perspectives, de lancer notre guide pour des bonnes pratiques pour une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes.
Elodie, en observant l'évolution de la place des femmes dans le monde professionnel, quels progrès et quels obstacles avez-vous identifiés ?
Alors, moi, je suis dans l'entreprise depuis 5 ans, mais on va prendre une échelle de temps un petit peu plus grande et parlons de manière plus générale de tous les secteurs. Donc, des progrès ont été faits, bien sûr. Entre 1982 et 2019, la part des femmes cadres dans l'emploi a quadruplé. C'est indéniable, c'est des beaux progrès dont il faut se féliciter. Par contre, au sein du CAC 40, on compte 3 femmes dirigeantes. Un quart des entreprises seulement ont une parité dans les plus grosses rémunérations et des différences de salaire à travail équivalent subsiste et ne s'explique pas. Même quand on a des femmes dans l'entreprise, elles ont du mal à monter l'échelle et puis elles diminuent au fur et à mesure qu'on augmente dans la pyramide. Donc la réalité, c'est qu'il y a toujours un plafond de verre aujourd'hui pour les femmes en entreprise, plus ou moins important en fonction des secteurs, des différentes entreprises, des cultures qui sont dans les entreprises, mais qui existent, ça c'est factuel.
Alors, factuel et propre au monde du travail en général, Hélène, est-ce que vous avez des chiffres qui illustreraient la place des femmes dans la tech aujourd'hui ?
Alors, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a 27% des filles qui sortent des écoles d'ingénieurs. Donc évidemment, c'est trop peu, parce que ça veut dire que cet écart se retrouve plus loin dans les différentes étapes d'IA, d'algorithmes, de création d'algorithmes, etc. Et que si elles sont 27% à sortir des écoles d'ingé, elles sont aussi 27% à rentrer, il y a 27% de femmes dans la tech aujourd'hui, et plus particulièrement, il y a 15% de femmes dans les métiers du numérique. Je voudrais rappeler deux chiffres qui pour moi sont édifiants. Il faut savoir qu'il y a 60 milliards d'euros qui sont générés par le numérique, qui ont été générés en 2022. C'est énorme. Et puis, ce chiffre qui, moi, me touche, entre guillemets, il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux tiers des enfants qui sont en maternelle exerceront un métier qui n'existe pas encore. Ça veut dire aussi qu'on sait que l'IA, certains en ont peur parce que on sait qu'il y a certains métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, mais on sait aussi que dans les métiers qui vont disparaître, la plupart des métiers seront exercés par une femme. Donc effectivement, les femmes sont touchées de plein fouet par cette nouvelle révolution.
Ah oui, la situation paraît en effet préoccupante. Alors Élodie, comment inciter les femmes à prendre le virage de la tech et de l'IA le plus rapidement possible?
Et moi, je pense qu'on sous-estime grandement l'importance que peut avoir la représentation dans les entreprises. Montrer tout simplement, dès le plus jeune âge, que ces métiers y sont possibles et qu'ils font partie du champ des possibles. Dans le réseau RISE, par exemple, et également grâce au réseau Women at IBM qui œuvre depuis plus de 20 ans, on a à cœur de mettre en avant des femmes inspirantes, des femmes compétentes, à essayer de démocratiser et d'encourager l'entraide, le mentorat, etc.
Selon vous, les intérêts pour la tech sont-ils innés ou plutôt le résultat de l'influence culturelle ?
Ouais, alors moi, mon avis, c'est qu'on n'arrivera jamais à déterminer si c'est quelque chose qui est lié à des intérêts qui sont de l'ordre du biologique ou bien si c'est des intérêts qui, tout simplement, sont cultivés par la culture. Toujours est-il que des stéréotypes de genre, il en existe, qu'on les voit depuis le plus jeune âge et que effectivement, dans notre société, dans notre quotidien, dès le plus jeune âge, on va pousser un petit peu les filles plus vers un certain type d'activité, jouer à la poupée, ce qui les amène à avoir plus de rôles et de responsabilités dans ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers du care, par exemple. Et puis, on va amener les hommes, effectivement, vers des activités où il y a plus de risques, où on va valoriser la prise de décision rapide, ce genre de choses. Donc, ça, c'est indéniable. Effectivement, nous sommes tous aujourd'hui le fruit d'une société dans laquelle sont ancrés des stéréotypes de genre.
D'accord, mais Hélène, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la situation?
Je suis persuadée qu'on a une responsabilité tripartite pour avoir plus de femmes dans la tech, plus de filles dans les STEM. Il y a la responsabilité des parents, leur montrer que oui, on peut, que rien n'est impossible et que c'est pas forcément qu'un un environnement pour les garçons et que les filles n'ont pas leur place. Non, il faut briser ça. Il y a évidemment le rôle de l'école et puis en relais, il y a effectivement l'entreprise et l'entreprise, elle a également un rôle énorme à jouer en accueillant des femmes comme il se doit dans la tech.
Alors à ce propos, on entend parler du principe du tuyau percé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Le tuyau percé, c'est 50% des femmes quittent la tech au bout de 8 à 10 ans. Et pourquoi ? Bah parce qu'il y a un sexisme ambiant, parce que elles sont pas reconnues, parce que il y a pas d'organisation de plan de carrière, etc. Donc ça, c'est pas un phénomène isolé et ça existe.
Mais alors on le voit, la tech est pas un milieu franchement favorable aux femmes. Élodie, pourquoi avoir choisi le secteur de la tech en tant que femme ?
C'est personnel du coup comme réponse, mais je vais répondre quand même parce que j'ai une réponse à apporter. Me concernant, j'ai toujours été quelqu'un de très curieuse et notamment très curieuse par rapport aux nouvelles technologies. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de changer par rapport aux nouvelles façons de consommer, aux nouvelles façons de se comporter, aux nouvelles façons d'interagir. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est soit je fais partie. En fait, soit je prends le train en marche et je fais partie de ce changement et j'ai mon mot à dire aussi sur tout ce qui va changer, soit je laisse le train passer et je le regarde. C'est vrai que quand on arrive dans le secteur informatique, dans le secteur des technologies, on se rend compte qu'il y a majoritairement des hommes. Alors oui, des fois, on se retrouve à être la seule femme dans une réunion. Ça m'arrive très souvent. Et il arrive qu'on ne soit pas forcément écouté, valorisé ou ce genre de choses. C'est une réalité. Par contre, c'est vrai que je suis dans une entreprise, donc chez IBM, où il y a une grande conscience de ces sujets-là. Aujourd'hui, si on reprend l'index égalité professionnelle, chez IBM, il est de 89 quand on est dans un secteur où la moyenne est à 84. Alors bien sûr, il y a moins de femmes dans le secteur, mais je suis en tout cas dans une entreprise et je pense que ça se démocratise de plus en plus dans les entreprises du secteur où on va favoriser le recrutement des femmes, où on va favoriser les promotions des femmes et où on va être tout simplement attentif à la progression qu'elles peuvent avoir.
Bon, mais petit à petit, les femmes investissent quand même le secteur de la tech, non ?
Alors, les femmes sont présentes, oui, cependant, elles sont largement surreprésentées dans la recherche et dans la conception de ces technologies. On peut citer quelques chiffres. Donc, il y a seuls 20% des employés qui occupent des fonctions techniques dans les entreprises qui sont liées à l'intelligence artificielle, qui sont des femmes. Seulement 12% des chercheurs en intelligence artificielle au niveau mondial sont des femmes et seulement 6% des développeurs de logiciels professionnels sont des femmes. Et pourtant, l'enjeu est de taille.
Alors Hélène, vu la faible représentativité des femmes dans l'IA, est-ce que cela a un impact sur la technologie elle-même ? Autrement dit, l'IA est-elle sexiste ?
Quand on parle des, notamment des algorithmes et des bases de données, et c'est là où je réponds, est-ce que l'IA est-elle sexiste ? Oui. Oui, pourquoi est-elle sexiste ? Parce qu'elle est fabriquée, elle est construite à 88% par des hommes. Alors, inconsciemment ou non, ces hommes retransmettent leurs biais, d'où l'importance de créer, de former dans les entreprises, avoir des formations sur les biais inconscients. Et comment est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer ces 88% d'algorithmes construits par des hommes ? Bien justement, en attirant plus de femmes dans les métiers un peu techniques qui leur permettent, alors, si les femmes sont pas assez nombreuses, de montrer aux hommes qu'il faut déconstruire et mettre un cadre éthique dans la construction des algorithmes pour pouvoir s'assurer que on est à parité ou que on a, il n'y a pas de biais inconscients qui se sont introduits dans la construction des algorithmes et des bases de données.
Les intelligences artificielles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, elles sont le reflet de notre société. Et si on n'y met pas de garde-fou, elle sera aussi le reflet de ce qu'il y a de plus discriminatoire dans notre société. Alors, un choix de société, pour le coup, s'impose. Si on veut en faire un outil pour tous, il faut indéniablement qu'il soit créé par tous.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement ce que cela signifie ?
Les modèles de langage, ils sont entraînés sur un grand ensemble de données qu'on va leur fournir. Et donc, dans leur mode de fonctionnement, ils sont sujet à plusieurs biais. Tout d'abord, il y a le biais sur les données d'entraînement. En fait, quelles sont les données qu'on va fournir à ces intelligences artificielles pour pouvoir s'entraîner ? Ils peuvent contenir des biais, tout simplement parce qu'il y a des biais dans notre société. Donc ça peut être des stéréotypes de genre, mais également des préjugés raciaux ou bien d'autres formes de discrimination. Et en apprenant à partir de ces données-là, les modèles, ils vont du coup intégrer et perpétuer ces biais. Ensuite, on a un second biais, qui est le biais dans l'entraînement, puisque ces modèles, ils vont apprendre donc à partir des données qu'on leur aura données, mais ils vont apprendre grâce à des algorithmes d'apprentissage. Et ces algorithmes-là, ils sont aussi réalisés par des humains. Et on a dit aujourd'hui que le pourcentage des femmes qui travaillaient sur la conception de ces algorithmes-là était minime. C'est pour ça qu'ils peuvent aussi introduire des biais en fonction de la façon dont ils vont être conçus, de la façon dont ils vont être optimisés.
Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter ces biais ?
Comment est-ce qu'on fait pour éviter ces biais ? Eh bien, en face de chaque biais, on met une solution pour essayer de contrer ça. Par exemple, on s'assure que les données fournies, elles soient bien représentatives de l'ensemble de la société. Si on parle, par exemple, des intelligences artificielles de reconnaissance faciale, qui, elles ont eu, par le passé, du mal à reconnaître des visages de personnes noires ou bien des visages de personnes asiatiques, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas assez, il n'y en avait pas assez dans leur base de données d'apprentissage au départ. On s'assure également que les personnes qui conçoivent les intelligences artificielles et leurs algorithmes, que parmi ces personnes-là, il y a de la diversité. On ne parle pas seulement des femmes et des hommes, mais aussi de la représentation des personnes racisées, de personnes en situation de handicap, de personnes même avec des âges différents, tout simplement de tout ce qui fait la diversité de notre société. Et on peut également mettre en place donc des mécanismes de contrôle des données par des tiers, de contrôle des algorithmes, puisque tout ne peut pas fonctionner parfaitement sans aucun biais en étant l'œuvre d'une seule personne. Les biais, en fait, pour la plupart, ils sont inconscients. Il ne s'agit pas de pointer du doigt quelqu'un en disant « cette personne a été volontairement misogyne, cette personne a été volontairement raciste », c'est pas ça. On a tous des biais, j'ai des biais, vous avez des biais, et c'est important d'en prendre conscience. Par contre, c'est important de mettre en place des garde-fous. Chez IBM, par exemple, on utilise des modèles de langage pour nous aider au quotidien. On les utilise dans un environnement informatique qui est sécurisé avec certaines règles de confidentialité, bien sûr. Et sur la version qu'on utilise, on a un petit bouton qui s'appelle « checker les biais ». Et là, derrière, il y a un algorithme de contrôle qui a été créé spécialement pour ça, pour nous permettre d'éviter d'avoir des biais dans les contenus qu'on va produire. Et donc, ne serait-ce que le fait d'avoir ce petit bouton, déjà, ça nous fait peut-être plus réfléchir, prendre conscience du fait qu'il pourrait y avoir des biais dans ce qu'on va produire. Et puis après, on peut toujours le faire revérifier par un tiers, par un algorithme qui a été créé pour ça.
Donc, si je comprends bien, on peut avoir une réponse technologique. Hélène, est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de réponses en faveur de l'égalité ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Bon, il y a déjà les compétences propres, les talents des collaboratrices et des collaborateurs quand ils arrivent. Donc là, parlons des collaboratrices. Il y a leur éducation, leur formation, leur talent intrinsèque. Et tout au long de leur parcours dans l'entreprise, il y a du mentoring, des formations. Et moi, je crois beaucoup au sponsoring. Alors, le sponsoring, c'est comment, moi, en tant que femme, je vais rechercher quelqu'un avec une position plutôt élevée qui va m'épauler, qui va m'aider à grandir et qui va me donner les différents codes et m'introduire dans les différents cercles.
Et on pourrait également parler donc, de la dernière loi qui a été promulguée sur le sujet, qui est la loi Rixin, qui, elle, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, vise à 2030 d'avoir 40% de femmes au poste dirigeants des grandes entreprises.
À votre avis, Élodie, quand allons-nous réussir à obtenir cette égalité homme-femme ?
Il y a une citation que j'aime bien qui dit « On aura atteint l'égalité professionnelle quand il y aura autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents à des postes à responsabilité. » Et je pense qu'il est important de rappeler qu'on a un historique où il y a des hommes qui ont été favorisés alors qu'ils n'avaient pas forcément les compétences, alors qu'ils n'avaient pas forcément l'expertise, mais tout simplement parce que c'était des hommes.
Hélène, quel message peut-on envoyer à nos auditeurs qui souhaitent contribuer à l'avènement de cette parité ?
Alors moi, je dirais, si vous avez des filles, des nièces, des cousines, si vous avez des filles dans votre entourage, n'hésitez pas, dites-leur que d'abord, elles ont de la valeur, parce que ça, c'est fondamental. Elles ont de la valeur et que rien n'est impossible pour elles. Et que si en plus, elles peuvent rejoindre les STEM et dépasser le fait qu'elles sont peut-être en minorité, mais c'est ce qui va faire leur force, eh ben, allez-y. Et accompagnez-les pour pouvoir, à leur tour, être des femmes qui seront performantes, reconnues et installées dans la tech.
Alors, ça fait une quinzaine de minutes qu'on parle de la parité homme-femme dans le secteur de la tech. Élodie, est-ce que vous ne ressentez pas une certaine fatigue ? Et plus sérieusement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce phénomène nouveau dont on entend parler qui s'appelle la gender fatigue ?
Ça touche aussi les jeunes populations et puis on peut en parler. La gender fatigue, ça va être d'un côté la fatigue de celles et ceux qui combattent les inégalités et qui considèrent que les résultats vraiment se font attendre, que c'est pas encore assez. Et d'un autre côté, ça va être de l'agacement du fait que ce soit un sujet dont on parle tout le temps. Et puis, on en parlerait trop et puis on ferait trop pour les femmes. Ce qui est drôle, c'est que la gender fatigue, ça navigue en fait entre le pas assez et le trop plein. Voilà.
Pour conclure, Élodie, comment imaginez-vous la suite de la lutte pour l'égalité homme-femme ?
Alors, il y a un challenge. Comment est-ce qu'on continue à communiquer sur ces enjeux-là ? Des fois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir l'impression que voilà, il y a des hommes, il y a des femmes en entreprise et en fait, le sujet, le plafond de verre n'est plus un sujet, les inégalités salariales ne sont plus un sujet. Mais la réalité, c'est que les chiffres montrent autre chose, en fait. Donc, comment est-ce qu'on continue à expliquer que ces sujets, c'est important, qu'il faut continuer d'en parler ? Et puis, comment est-ce qu'on arrive à faire prendre conscience aux hommes qu'ils ont été favorisés, qu'ils ont eu des privilèges sur ces sujets-là. Tout à l'heure, on a parlé des stéréotypes de genre qui pouvaient être aussi défavorables aux hommes qu'aux femmes. Et c'est un vrai enjeu.
Et pour vous, Hélène, quelles sont les prochaines étapes ?
Oui, alors moi, je voudrais juste insister sur une dernière chose, c'est de dire que pour que les femmes osent, il faut aussi qu'elles soient accompagnées et qu'elles soient accompagnées par des hommes. Donc, les hommes sont les alliés des femmes et ça, on le perd parfois de vue. Et je trouve que la réussite de la femme, elle passe aussi je parlais du sponsorship tout à l'heure, avoir des hommes qui croient en elles, qui les font avancer et la parité ne pourra pas être avancée et être gagnée si ça n'est que l'affaire de femmes. Il faut aussi considérer que la parité, c'est l'affaire des hommes et avoir des hommes qu'on considère comme nos alliés pour pouvoir bouger les lignes et avancer sur cette thématique.
Merci infiniment à nos invités, Élodie et Hélène, pour leurs insights et leur engagement. Si cette conversation vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de partager Questions d'innovation par IBM autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.